Bonjour. Alors, tout d'abord, je suis vraiment honorée de pouvoir servir le Seigneur devant vous ce matin. Et voilà, que ce message puisse vous encourager comme il m'a encouragée moi pendant que je l'ai préparé. Il fait chaud. C'est la fin de journée et il est éreinté. Il a dû abandonner son âne il y a 3 jours. La route devenait trop escarpée pour lui. Et maintenant, ses pieds lui font mal à force d'avoir parcouru tant de kilomètres. Allez, Jérusalem n'est plus très loin. Encore un peu de courage et bientôt, bientôt, il sera arrivé. Ah, quelle belle récompense ! Jérusalem, ses rues pleines de vie, les enfants qui courent entre ses jambes, les bonnes odeurs de fruits et légumes du marché, et le temple. Ah, le temple ! Mais là, là, tout de suite, il n'en peut plus. Le courage lui manque. Il s'assoit, prend son outre, qui est bien trop légère. Il prend note intérieurement qu'il faudra bientôt trouver un refuge pour la remplir à nouveau. Bientôt, la nuit va tomber et son âne va lui manquer. C'est que les nuits sont fraîches à cette époque de l'année, vous savez. Dans un soupir, il lève les yeux et contemple la dernière épreuve qui l'attend. Comment vais-je me sortir de cette situation ? Et alors qu'il formule cette pensée, elle fait écho à quelque chose en lui. Quelque chose qui lui redonne du courage. Quelqu'un d'autre est passé par une situation similaire à la sienne. Que disait-il déjà ? Ah oui, oui, c'est ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est l'ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cet après-midi, j'aimerais que nous nous attardions ensemble sur le témoignage d'un homme qui a cherché du secours et qui en a trouvé. Comme nous l'avons lu, cet homme a écrit un cantique à ce propos, afin de pouvoir encourager et réconforter ceux qui traverseraient la même situation que lui. Son témoignage, nous pouvons le trouver dans le livre des Psaumes, au chapitre 121. Ce psaume fait partie de la collection des Cantiques des Montées, ou Cantiques des Degrés, selon la version que vous utilisez. C'est des psaumes qui avaient coutume d'être chantés, lors des pèlerinages vers Jérusalem, pour aller à la rencontre de l'Éternel dans son temple. Le psaume 121 est un psaume rempli de promesses. C'est un psaume qui exprime la confiance du psalmiste envers l'Éternel. À l'heure où la confiance la plus valorisée dans notre monde est la confiance en soi, je voudrais nous inviter à mener cette réflexion. Où placer notre confiance ? Le psaume 121 nous y guidera en nous présentant tout d'abord l'Éternel, notre secours, puis l'Éternel, notre gardien, et enfin, l'Éternel, seul digne de confiance. Les montagnes, si hautes, si infranchissables. Non, pour le psalmiste, il ne s'agit pas de l'engouement de la montagne avec télésiège et compagnie. Lui, les montagnes, il les redoute. À l'époque, rappelons-le, les routes, et surtout les routes de montagne, étaient source de mille dangers. Avec leurs petits recoins, leurs routes sinueuses et brutes. Faut-il mentionner les animaux sauvages ? Et puis, les montagnes, c'était aussi la planque idéale pour les brigands. Ils se cachaient au détour d'un chemin et attendaient qu'un pauvre voyageur passe par là pour le dépouiller de tout ce qu'il avait, quitte à le passer un peu à tabac, pour être sûr qu'il ne reviendrait pas les poursuivre. Tiens, ça ne vous rappelle pas une parabole, une certaine parabole que Jésus aurait racontée ? Oui, les montagnes apportent un sentiment mitigé chez notre psalmiste, et ça peut se comprendre. Sur la route de notre vie, il nous arrive aussi de croiser des montagnes, ce genre de situations qui peuvent nous paraître infranchissables, mystérieuses, voire source de crainte. Ne dit-on pas d'ailleurs dans notre chère langue française « Oh, ça va, tu vas pas en faire toute une montagne ». Les difficultés que nous rencontrons peuvent provoquer doute, incertitude, crainte, ou parfois juste l'envie de faire demi-tour et prendre ses jambes à son cou, ou bien faire l'autruche en attendant que les difficultés s'en aillent toutes seules. Ces montagnes dans notre quotidien peuvent ressembler à une recherche d'emploi qui n'aboutit pas, à de gros examens dont notre année dépend, à un célibat trop long, à une convalescence qui prend du temps, à des tensions au travail ou à la maison. Et la liste pourrait être longue, car ces montagnes prennent des aspects différents selon chacun d'entre nous. Et chacun, face à sa montagne, réagira différemment. Ce qui est une montagne pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre, et vice-versa. La première réaction du psalmiste est de s'écrier « D'où me viendra le secours ?» C'est une question réelle, légitime, qui traduit sa crainte. Comment vais-je me sortir de cette situation ? Et nous ? Quel est notre premier réflexe face à une situation difficile ? Où cherchons-nous d'abord notre secours ? Est-ce que notre premier réflexe, ça va être de nous asseoir, de prendre notre Bible et de prier ? Si oui, alléluia ! Mais reconnaissons que bien souvent, notre première réaction est de chercher d'abord une porte de sortie par nous-mêmes. Notre réflexe serait plutôt de nous tourner vers la famille, de se tourner vers son conjoint ou un ou une amie. Ça peut être d'aller chercher les réponses sur Google ou de poster un statut Facebook en espérant qu'il y a du monde qui va nous aider en réagissant. Ça peut être de se réfugier dans son travail ou dans ses études. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais le recours à Dieu vient malheureusement en second lieu, une fois que nous avons abattu toutes nos cartes. Le psalmiste va donc jouer pour nous un rôle d'exemple. Sa réponse est sans équivoque. Le secours me vient de l'Éternel. D'abord dans la crainte face à ces montagnes, Le psalmiste va ensuite et uniquement se tourner vers Dieu. Autrement dit, il choisit de mettre de la confiance là où il devrait y avoir de la crainte. Il choisit de mettre de la confiance là où il devrait y avoir de la crainte. Il faut quand même relever qu'affirmer ses craintes ne l'a pas empêché, qu'affirmer cela, que le secours vient de l'Éternel, ne l'a pas empêché dans un premier temps d'exprimer sa crainte, sa doute, ses doutes. Il n'est pas interdit de dire que nous avons peur. Il n'est pas interdit de dire que nous ne comprenons pas. David, lui, il ne s'est pas privé d'exprimer ses sentiments, même les plus violents, face à des situations qu'il a traversées. Et Jésus lui-même a demandé à Dieu s'il y avait un moyen de ne pas passer par l'épreuve de la croix. Puis il s'est soumis. Il n'est pas interdit de questionner. Et Dieu n'a pas choisi des robots pour enfants, mais bien des personnes avec des sentiments. Son désir est que ce soit vers lui seul, que nous nous tournions premièrement, car il est le seul à savoir comment nous rassurer. Oui, le secours véritable vient en effet de celui qui a tout créé, comme le dit le psalmiste. L'univers, les montagnes, oui, les montagnes qui font peur au psalmiste. Il a créé les animaux, les êtres humains. Réfléchissons 5 minutes à la beauté de tout cela, à la perfection de la création, et comment des milliers d'années plus tard, elle continue à épater nos yeux et à faire bondir notre cœur de joie et d'émerveillement. C'est Dieu qui a créé tout ça. Aller chercher du secours ailleurs qu'en Dieu, l'auteur de toutes ces choses, ne sert à rien. C'est comme utiliser un placebo. On a l'illusion que ça va mieux, mais ce n'est que temporaire. Notre besoin est tellement, tellement profond qu'il ne peut pas être comblé par n'importe quoi. Il nécessite d'être comblé par celui qui nous connaît jusqu'au plus profond de notre âme. Le psalmiste nous encourage donc à placer directement notre confiance en notre Créateur qui en est digne. Qui parmi vous a déjà acheté un meuble IKEA ? Ah oui, ça fait pas mal. Qui ne s'est pas cassé la tête à comprendre le plan et a réussi à le monter du premier coup ? Waouh ! Ah, je suis admirative. Et ça, c'était avec le dessin. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas de plan du tout. Il n'y a que le concepteur suédois qui l'a fabriqué, qui peut comprendre sans perdre de temps comment assembler toutes ces pièces ensemble. Et comment vous dire que nous, oui, nous tous là, nous sommes bien plus compliqués qu'un meuble IKEA. Et en plus, on est tous différents. Dieu, en tant que notre concepteur, notre fabricant, est le seul à avoir le mode d'emploi de notre personne. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît notre caractère. Il connaît nos réactions face à telle ou telle situation. Il connaît nos désirs les plus profonds. Il connaît nos peurs, il connaît nos doutes. Il connaît ce qui va nous faire douter. Et malgré tout, il nous aime et il veut une relation avec nous. Dieu veut que nous cherchions notre secours en lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, le psalmiste nous invite à formuler une confession de foi semblable à la sienne. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette confession de foi dépasse l'angoisse, elle dépasse la crainte qu'inspire une route sinueuse de montagne et permet d'affronter les obstacles sur notre chemin. Cela veut-il dire que nous n'aurons plus peur ? Non, bien sûr que non. Mais cela veut dire que nous ne laisserons pas la crainte nous submerger. Nous entrons dans un processus d'incertitude confiante. En plaçant sa confiance en Dieu, le croyant sait qu'il peut totalement se reposer sur celui qui contrôle toute chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention en lisant le psaume, mais le mot « garder » ou « gardien » revient à 6 reprises en 6 versets. 6 versets sur 8. On ne peut donc pas se tromper sur l'intention du psalmiste. Dieu est le gardien de quiconque se confie en lui. Il est à la fois le gardien de notre vie et de notre âme. Non seulement il est notre refuge, mais il est aussi celui qui monte la garde pour nous protéger. Dans certains films d'action, vient le moment fatidique du feu de camp. On désigne le tour de garde afin qu'il y ait toujours quelqu'un pour surveiller que le feu est bien nourri et que surtout il n'y a pas d'attaque qui va subvenir. 23 heures, tout va bien. Il y a encore quelques-uns qui sont réveillés. Du coup, il tient le coup. Minuit, ils ne sont plus que 2 ou 3 à tenir debout. Et là, ça commence à devenir un peu difficile, surtout que la journée derrière, elle était longue. Hein. Ils ont marché tout le temps. 1 heure du matin, ils commencent à piquer du nez. 1 demi-heure plus tard, ils dorment profondément. Et bam ! C'est à ce moment-là que les attaques surviennent toujours. Et alors là, bah, ils sont mal. Ah, les amis, vous réalisez quelle chance on a. Notre Dieu n'est absolument pas comme ce gars qui s'endort. Pourquoi ? Parce que notre gardien ne sommeille ni ne dort. Dieu n'est pas un faux Dieu ou un simple être humain pour s'endormir, pour ne pas réussir à tenir une garde. C'est donc en toute confiance que nous pouvons nous appuyer sur lui. Il veillera sur chaque instant de notre vie, sans se lasser, sans être fatigué. Il restera aux aguets et préviendra les dangers sur notre route. En faisant de nous ses enfants, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls, sans défense. Il a élu domicile en chacun de nous par son Saint-Esprit. Nous ne sommes plus seuls. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, dit ce cantique. Et c'est vrai, nous puisons notre réconfort dans cette promesse. Dieu ne nous abandonnera pas en cours de route sous prétexte que nous avançons trop lentement, éprouvons trop de craintes, trébuchons tous les 2 pas. Il est notre gardien. Un gardien qui a fait alliance avec nous à la croix en payant de son propre sang. Si nous sommes infidèles, inconstants, lui ne l'est pas. Il promet dans sa parole de prendre soin de nous sur tous les plans, comme nous pouvons le lire par exemple en Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Alors que devons-nous comprendre ? Que quand nous mettons notre confiance en Dieu, tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il ne nous arrive plus aucun mal, ça serait génial. Mais par expérience, nous sommes tous d'accord pour affirmer que ce n'est pas le cas. Pourtant, les promesses « il ne permettra pas que ton pied chancelle et l'Éternel te gardera de tout mal » ne sont pas des paroles en l'air. Ses promesses sont tout à fait réelles. Mais elles ne sont pas à prendre de manière absolue pour cette vie-là. Elles prendront leur pleine mesure quand le Seigneur Jésus reviendra et que nous habiterons avec lui. À ce moment-là, en effet, il ne nous arrivera plus aucun mal. Mais en attendant, tant que nous sommes encore sur cette terre, il arrive que nous trébuchions, que des drames surviennent, que nous soyons touchés par le mal, tout simplement parce que nous sommes dans un monde rempli du péché. Mais Dieu nous assure sa présence constante à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. Le psaume 37 nous encourage à mettre en Dieu toute notre confiance en toutes circonstances et il agira. Les montagnes de la vie ne disparaîtront pas, mais avec Dieu à nos côtés, elles seront plus faciles à traverser. Le fait que l'Éternel est notre secours et l'Éternel est notre gardien nous amène inévitablement à conclure « l'Éternel est le seul digne de confiance ». C'est comme 1 plus 1 font 2. On n'a pas besoin d'avoir fait maths sup, c'est une suite logique. Et c'est là que le psalmiste veut nous amener en nous présentant Dieu de cette manière. Dieu veut que nous lui fassions confiance pour gérer nos vies. Mais le faisons-nous vraiment? N'y a-t-il pas des petites choses que nous préférons gérer par nous-mêmes? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous annoncer quelque chose. Dieu vous veut, Dieu nous veut tout entier. Pour essayer de vous l'illustrer, je vais prendre un exemple entendu lors d'un rassemblement. Quand on commande une pizza, on s'attend à ce qu'elle arrive en entière, en entier. Imaginez, ding-dong, vous ouvrez la porte, il y a le livreur, vous lui donnez l'argent, vous ramenez votre pizza, elle sent trop bon. Puis là, vous ouvrez le carton et... quelle arnaque ! Il manque une part ! Remboursé ! Nous sommes cette pizza et Dieu est celui qui l'a commandée. Lui aussi, il peut se sentir arnaqué quand nous nous livrons à lui, en partie seulement. Parce que le deal, c'était bien ça. En donnant notre vie à Dieu, nous avons décidé de tout lui abandonner, de lui faire confiance pour tout gérer dans notre vie. Et malgré tout, nous continuons à ne lui livrer que des pizzas entamées. Qu'est-ce qui nous retient de nous livrer en entier ? Qu'est-ce qui nous retient ? Quelles sont les parts que nous souhaitons encore garder pour nous, alors qu'on devrait laisser Dieu les gérer? La confiance, ça se construit. Oui, même la confiance en Dieu. Nous sommes bien placés pour reconnaître qu'elle est loin d'être acquise, sinon nous ne chercherions pas constamment à contrôler notre vie. Le problème ne vient pas de lui, il vient de nous. Alors, quoi ? Est-ce que nous sommes des cas désespérés ? Non, je vous rassure. Donc, puisque ce n'est pas le cas, la question c'est finalement de savoir comment solidifier notre confiance. Quels sont les fondements solides sur lesquels notre confiance doit reposer ? Et il y en a trois. En tout cas, j'en ai trouvé trois. apprendre à connaître Dieu, s'appuyer sur les promesses de Dieu et compter les bienfaits de Dieu. Apprendre à connaître Dieu, c'est la base. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas ? Apprendre à connaître Dieu implique donc de passer du temps avec lui. Comment ? En méditant sa parole, en priant, en faisant silence juste, en nous tenant à son contact, en nous mettant à son écoute. Non parce qu'il le faut, mais parce que je le désire au plus profond de mon cœur, parce que je sais que sans ça, je ne tiens pas la route. Faire connaissance nécessite du temps et de la patience. Tout couple vous le dira. Je suis sûre que Yada et Flo, avant de se marier, ils ont appris à faire connaissance, ils se téléphonaient des longues heures, ils allaient au resto, ils allaient peut-être au ciné, peut-être. Ainsi, apprendre à connaître quelqu'un demande un certain engagement, demande une organisation de notre emploi du temps. Oui, oui. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Ce n'est pas du tout cuit, ça nécessite une mise en action de notre part. Deuxième fondement, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Face à une situation difficile et aux sentiments qu'elle lui inspire, le psalmiste tire son assurance dans les promesses de Dieu. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il te gardera de tout mal. Le soleil ne te frappera point. Voilà les promesses sur lesquelles le psalmiste s'appuie. C'est en se les rappelant qu'il trouve la force nécessaire pour affronter l'obstacle. Et des promesses, dans la parole de Dieu, il y en a des centaines. En apprenant à connaître Dieu et sa parole, on peut trouver notre réconfort dedans. Puis le troisième fondement, compter les bienfaits de Dieu. Dieu a démontré de plusieurs manières sa fidélité dans notre vie. Apprenons à compter tout ce qu'il a fait pour nous en rappeler quand vient l'épreuve. Regardons à l'œuvre de la croix, par exemple, ce que ça lui a coûté pour que nous devenions libres. Et comment ne pas lui faire confiance après ça ? L'Éternel, notre secours. L'Éternel, notre gardien. L'Éternel, seul digne de confiance. Pour conclure, j'aimerais lire le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Parce que Dieu est éternel, il nous gardera tout le long de notre route et ce, pour toujours, jusque dans l'éternité. Ce que Dieu a commencé en nous, il le mènera à la perfection pour le jour de Jésus. Nous n'en sommes qu'au début du parcours. Et nous avons l'assurance que Dieu est le secours et le protecteur de celui qui le cherche et se confie en lui de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Parce que nous l'aimons, nous savons que nous pouvons tout lui abandonner, sans exception. Et parce qu'il nous aime, nous avons l'assurance qu'il gérera notre vie à la perfection. La route est longue et difficile, mais Dieu nous promet son soutien. En toutes circonstances, levons donc les yeux vers Dieu et gardons-les fixés sur lui. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir nous chanter un dernier chant et que nous puissions prendre un temps pour nous examiner afin de discerner ce qui ralentit notre route, ce que nous n'avons pas encore abandonné à Dieu. Puis exprimons-lui notre confiance en lui et en sa capacité à gérer parfaitement notre vie. Qu'aujourd'hui et pour le reste de notre vie, mes frères et sœurs, nous nous tenions prêts à tout abandonner pour notre bien, pour notre paix, pour notre liberté. Amen.